troupeau, vous nous suivrez. Nous chasserons en tête du troupeau, vous, vous chasserez les rennes les plus lents. Les rennes dont la chair nous apporte à toi et moi notre nourriture. Puis nous, les humains, ils nous donnent aussi leur peau pour ne pas mourir de froid. De leurs intestins, nous créons du fil pour coudre. De leurs os, nous créons des aiguilles. Les rennes, nous les vénérons. Nous remercions leur esprit à chaque fois que nous les chassons. Vous, les loups, lorsqu'ils vous donneront un festin, remerciez-les par vos chants. L'enfant qui n'avait pas trouvé son nom cessa de parler. Le loup lui tendit sa patte. Alors l'enfant qui n'avait pas trouvé son nom lui retira son écharpe de bois. Le roi loup se laissa caresser la tête par le tout jeune être humain. Or ce n'est pas une soumission, mais un signe d'amitié, un signe pour dire « j'accepte ton pacte ». Avant de partir, l'immense roi des loups eut cette dernière parole pour l'enfant qui n'avait pas trouvé son nom. « Si tu veux, et cela me remplirait de joie, et seulement si tu le veux, je te donne mon nom, Maïkan. » Depuis ces temps si lointains, les peuples des Premières Nations vivent en paix avec les loups, plus aucune attaque ou disparition d'enfants. Depuis ces temps si lointains, Maïkan est devenu un prénom chez les Innus et les Naskapi. En langue Innu et Naskapi, Maïkan signifie loup.
Merci beaucoup pour ce conte très beau et très poétique, Michel. Nous allons passer à une autre lecture, interprétation de la spécialité théâtre, Blanche-Neige, histoire d'un prince.
Vous faites bien de me réveiller, mon prince. Plus je grandis, plus je roupie, et plus je broupie, plus je grandis. Quelle grande roupieuse je fais! Si ça continue, je vais manger les nuages et attraper les avions. Je vous en donnerai des morceaux de nuages et des bouts de réacteurs, et nous planerons au-dessus du royaume. Nous serons légers, si légers, aussi légers que le jour des noces. Vous vous souvenez? Les grandes pompes, partout les grandes pompes, le coq en pâte, les pots en cake, les grosses dindes et toutes les danses, gigue, valse, foxtrot, quadrille, passo doblé, pogo et électro. Nous avons été si heureux, c'est écrit à la fin de notre histoire. Ils vécurent heureux, si heureux, tellement heureux. Bonheur, joie et ravissement de chaque seconde. Le bonheur nous a collé aux poulets, nos ballerines, nos basques, mais il ne compte plus à mes bottes, ce fabuleux bonheur, cette onctueuse insouciance. Regardez-nous, mon prince, de quoi avons-nous l'air? Vous si vieux et moi si grande, un crouton et une asperge. Et le pire, mon prince, c'est que tout m'ennuie. J'ai tellement honte, une grande dame comme moi devrait avoir tant de choses à faire en ce palais. Mais voyez-vous, ranger, plier, briquer, astiquer, épousseter, tout cela, ça ne me donne plus aucune gaieté. Il faudrait que je m'inscrive au bowling et à la marche nordique. Vous êtes bien muet, mon prince. Dialoguons un peu. Dialoguons comme il se doit, racontez-moi votre chasse-cueillette. Je n'ai pas entendu une seule détonation. Vous avez pourtant marché par-delà la forêt, sans arbres et les montagnes aplaties aux aguets. Et le fusil sur l'épaule, et vous n'avez rien chasse-cueilli. Je ne vous en veux pas. Moi-même, je ne peux plus faire ce que j'ai pu. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il put. Avez-vous quand même entendu quelque chose? Vu quelque chose? Un canard trembler? Une loutre déguerpir, un pigeon roucouler, un fruit pourrir? Rien. Pourquoi ne me répondez-vous pas, mon prince? Êtes-vous aveugle et sourd? Vous faut-il loupe et sonoteux? Et n'aimez-vous plus assez pour chasse-cueillir, comme vous le faisiez?
Le prince claque des doigts. Souillon lui apporte une enveloppe.
Blanche-Neige, par quatre chemins, je n'irai pas. Sur cette lettre, mes doigts ont trébuché.
Vos doigts sont bleus, Souillon! Une bandelette. Le doigt du prince ont trébuché.
Mon ventre aussi a trébuché.
Ventre bleu?
Et mes jambes, si tu voyais.
Jambes bleues?
Et mon cœur, si tu savais comme il trébuche. Mon sang ne fait qu'un tour.
Doigts bleus, ventre bleu, jambes et cœur en... Et cœur sang et bleu. Ne vous inquiétez pas. Je serai toujours à vos côtés pour mélanger mes doigts aux vôtres. Mon ventre à votre ventre, mes jambes, mon cœur et mon sang aux vôtres.
Enlève tes pattes blanches de mes doigts gourds. Tu ne vois pas que de toutes ces douleurs, cette lettre est la cause?
C'est l'arthrite.
Qu'est-ce que cette lettre qui me donne l'arthrite? Elle sent la giroflée.
Je vais jeter cette vilaine lettre aux ordures.
Tu vas la lire. Tu vas nous lire cette lettre. est-ce qu'est cette lettre qui fait autant d'effet sur toi ? Tes yeux m'éclaboussent de larmes. Lis-nous cette lettre. Que de mes yeux giclent des larmes, que je trempe et suffoque à mon tour. Lis-nous cette lettre.
Je ne peux pas.
Dis-nous au moins qui en est l'auteur.
Vous le savez bien.
Je veux l'entendre de votre bouche.
Monsieur Seguin. Monsieur Seguin est l'auteur de cette lettre.
Vous avez donc encore des sentiments pour cet alcoolique, ce paysan, ce plouc ? Qu'est-ce que ça vient foutre, ce Provençal, dans notre histoire ?
C'est la mondialisation.
Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là ?
C'est la mondialisation, prince.
Et toi, qu'est-ce que tu viens foutre dans l'histoire de Blanche-Neige ?
C'est la mondialisation.
C'est ça, la mondialisation. La planète se réchauffe, les contes se mélangent et les giroflées poussent partout.
Il n'y a plus rien qui pousse ici. Il n'y a que toi qui pousses et je crève à tes pieds.
Peut-être que ce n'est pas moi qui grandis, mais tout le reste qui rétrécit. Vous avez rétréci, mon prince. Vous avez rétréci dans vos pensées étriquées. Ah, elles étaient belles les noces, hein. Ah, il était beau le château. Nous voilà dans un palais pourri avec les 101 nains de la forêt parce que la misère et le désespoir multiplient tout par environ 14,43.
Combien de fois tu m'as dit être heureuse avec moi ? Combien de fois tu m'as dit que j'étais l'homme de ta vie ? Madame grandit et le prince déconfit ?
Vous ne m'avez pas rendu la vie facile, hein ? J'ai passé mon temps à faire le ménage et tout rangé, plié, briqué, astiqué, épousté, pendant que monsieur organisait des grandes parties de chasse avec ses copains.
Ne commence pas à faire la féministe, là. Ce n'est pas le moment.
Ce n'est jamais le moment. Vous m'enfermez, mon prince.
Je ne t'enferme pas, grognasse, je te protège.
Et je peux savoir ce que fabrique mon prince pendant que je suis enfermée ?
Je chasse-cueille des bêtes sauvages et des baies pour te nourrir, grande perche.
Bredouille.
Frivole.
Anonyme.
Blanche fesse.
Rouflaquette.
Pisse debout.
Hétéroplouc.
Gazoduc.
Vide grenier.
Nymphette.
Chasse-cueillette du dimanche.
Merci, c'était vraiment un très 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 beau conte. Merci beaucoup. Maintenant, je crois que Aglaé, vous avez un conte à nous lire, c'est ça ? C'est les grenouilles vertes, je ne me trompe pas ?
Non, ne me trompez pas.
Alors les grenouilles vertes, hein, c'est un conte étiologique populaire coréen. Donc maintenant étiologique, on sait parfaitement ce que c'est grâce à vous. Et il a été adapté par Yumi Eo, une autrice et illustratrice, pardon, jeunesse qui est américaine mais d'origine coréenne. Donc c'est un conte raconté aux enfants. Passage coréen. Et il est intéressant de noter donc les différences culturelles quant à la gestion et à la désobéissance des enfants. À vous.
Il y a de cela bien longtemps, lorsque les tigres fumaient encore la pipe, deux petites grenouilles vertes et leur maman vivaient dans une mare à nénuphars. Les deux enfants aimaient beaucoup leur mère, mais ne lui obéissaient jamais, faisaient toujours très exactement le contraire de ce qu'elle leur demandait. À l'arrivée du printemps, maman grenouille les réveilla.
« Debout ! Le soleil brille ! C'est le printemps !»
Mais les deux garnements se cachèrent la tête sous les couvertures en grognant. On ne voyait plus à l'extrémité du lit que leurs petits doigts de pied agiles. « Je saurais bien les faire lever !» se dit maman grenouille. Elle se rendit dans la cuisine et prépara une énorme marmite de soupe aux lentilles d'eau, le petit déjeuner préféré de ses enfants. Effectivement, à peine eurent-elles humé la délicieuse odeur de soupe que les deux petites grenouilles ne firent qu'un bond pour rejoindre la cuisine. « À table, s'il vous plaît. Asseyez-vous et mangez !» dit maman grenouille. Mais les deux galopins n'en firent rien et se mirent à ricaner et à chahuter en brandissant leurs cuillères de tous côtés. « Bon, très bien, ne mangez pas !» dit leur mère. Ils s'assirent alors aussitôt et avalèrent leur soupe jusqu'à la dernière gorgée. Quel horrible désordre après un petit déjeuner pareil. Il me faut ranger tout ça maintenant. Maman grenouille tendit à chacun de ses fils un torchon humide et un balai. Mais eux, au lieu d'obéir, nouèrent leurs torchons sur leur tête avant de monter et de descendre des chaises, laissant des traces de pattes dans toute la cuisine. Quand maman grenouille eut terminé de ranger tout le désordre laissé par ses fils, elle se sentit bien fatiguée et n'eut plus qu'une envie, se reposer dans les hautes herbes en lisant un bon livre. Mais les deux chenapans n'arrêtaient pas de bondir de tous côtés pour attraper des mouches. « S'il vous plaît, calmez-vous, que je puisse lire tranquillement !» Et les deux aussitôt se mettaient à croasser bruyamment. En voilà une façon de coasser. Vous faites décidément tout à l'envers, dit maman grenouille. Je vais vous apprendre, moi. Écoutez bien. Elle ouvrit grand la bouche et fait
croa, croa, croa.
À votre tour maintenant.
Croa, croa, croa.
Reprit de plus belle les deux drôles. Maman grenouille soupira profondément. Elle prit son livre et rentra à la maison. « Je ne leur dirai plus un mot, » décida-t-elle. Mais elle ne put s'empêcher de leur crier « Ne vous salissez pas !» À peine avait-elle dit cela que ces deux garçons, se jetant l'un sur l'autre, entamèrent une immense bataille dans la boue. C'était à celui qui en lancerait le plus sur l'autre. Et maman grenouille hocha tristement la tête. C'est ainsi que les choses se passaient, de saison en saison, d'année en année. Quoi que disait leur mère, les deux grenouilles faisaient exactement le contraire. Lorsque maman grenouille fut très vieille, elle tomba malade et sentit qu'elle allait bientôt mourir. Comme elle souhaitait être enterrée au soleil, sur la colline, elle fit venir ses fils et leur dit « S'il vous plaît, enterrez-moi à l'ombre, près de la rivière. » Elle était persuadée qu'ils feraient, comme d'habitude, exactement le contraire de ce qu'elle demandait. Mais à la mort de leur mère, les deux garçons regrettèrent amèrement de ne l'avoir jamais écoutée. Ils décidèrent donc d'obéir à ses dernières volontés. Ils l'enterrèrent à l'ombre, près de la rivière.
Merci beaucoup pour ce conte, qui se termine pas très bien.
Non, finalement non.
Et après cette lecture... très intéressante cependant, je vous propose une autre pause musicale. Anne Sylvestre était une grande artiste, plus connue pour ses fabulettes, ses chansons pour enfants, à son grand âme. En réalité, elle souhaitait être reconnue pour ses vraies chansons, celles à destination des adultes. Mais une femme qui fait des chansons féministes dans les années 60-70, ça ne plaît pas à tout le monde. Je vous propose de découvrir son titre « Frangine », Ode à la sororité.
Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre-douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou planche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, puis faire des hommes par des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas. Pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous montre monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses. Et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Merci beaucoup Willow pour cet instant musical, et vraiment Anne Sylvestre est l'une des plus grandes poétesses de la chanson française. Maintenant, nous allons écouter une Cendrillon, mais une Cendrillon un peu particulière, celle de l'immense auteur contemporain de théâtre Joël Pommerat. C'est à vous.
Située à côté du lit de la très jeune fille, l'armoire se met à trembler, à basculer, et finalement se renverse. Une femme à l'allure plutôt négligée, la fée, en sort, avec difficulté.
Oh, c'est quoi qui se passe là? Y a un problème ou quoi?
Merde, je vais me faire mal en plus.
Vous foutez quoi là-dedans?
J'ai mal évolué mon cou et je me suis endormie, j'ai l'impression. Merde.
Endormie? Dans mon armoire? On se connaît en plus? On se connaît pas?
Non, c'est la première fois, je crois, qu'on se voit.
Alors, vous déboulez comme ça dans ma chambre?
C'est ta chambre?
Bon, mais moi, j'ai pas le temps de vous parler avec vous, excusez-moi.
La fée sort une cigarette et l'allume.
Oh là là, ça va la vie pour vous comme ça?
Ça te dérange si je fume? On ouvrirait une fenêtre.
Y'a pas de fenêtre.
Y'a pas de fenêtre?
Oui, c'est provisoire, mais c'est comme ça. Moi, ça me va en fait, c'est moche, ça me correspond.
La fée souffle la fumée de sa cigarette avec volupté.
Vous êtes pas trop gênée, vous, en fait?
J'arrive pas à arrêter ce truc, c'est terrible. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché.
Bon, je vous connais pas. Je vous ai jamais vu. Vous fumez dans ma chambre. Et je suis obligée de vous écouter me raconter votre vie en plus. Mais moi, je peux pas vous écouter. J'ai des choses importantes que je dois faire. Et j'ai besoin d'être seule, d'avoir ma tranquillité. Alors bon, je vous demande de me laisser maintenant, de partir. Ou au moins de vous taire. Je sais pas si c'est clair.
C'est quoi que tu dois faire?
J'ai dit que j'avais plus envie de vous écouter, ni de vous parler. Ce qui est important, c'est que je dois penser à ma mère, parce qu'elle me l'a demandé et que c'est important.
La montre de la très jeune fille se met à sonner.
Voilà ce que je dois faire.
Même la nuit, elle sonne, ta montre?
Oui!
Pas gay, ta vie.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Pardon!
Merci.
C'est vrai, elle est chiante, ta vie. Tu te marres jamais, y a pas de distraction dans ta vie. Pendant ce temps, les autres... ils se marrent, tu sais ça?
Je m'en fous des autres, j'ai pas besoin de m'amuser. C'est pour les petits de s'amuser. Moi, j'ai d'autres choses à faire de plus important et de plus adulte que me distraire. Et de toute façon, pour se distraire, faut l'avoir mérité. Je mérite pas. Voilà, c'est dit. Maintenant, ciao! Fermez votre bouche qui déblatère des grosses âneries à la chaîne et fermez l'armoire en sortant. Si ça se trouve, je suis une vraie salope. Et j'ai oublié de penser à ma mère pendant je sais pas combien de temps. Et peut-être qu'à cause de ça, ma mère, elle est tombée dans la vraie mort maintenant. Voilà l'histoire. Vous êtes contente?
Elle est très émue, au bord des larmes.
Oh, tu vas pas pleurer, hein? Oh non, je supporte pas les... qu'on chiale à côté de moi, surtout les mômes.
Je chiale pas? Qu'est-ce que vous racontez? Non mais dis donc! Ça commence à bien faire de m'insulter comme ça. Ça va suffire, vous? Vous, qui êtes... Vous êtes qui pour me parler comme ça d'abord?
Je suis qui?
Oui, vous êtes qui d'abord?
Moi?
Oui, t'es qui pour te foutre de ma gueule continuellement? Ça va bien 5 minutes alors.
Alors?
T'es qui?
Je suis qui?
Oui, t'es qui, dépêche-toi.
La fée.
La fée de qui?
Quoi, la fée de qui? La fée de toi. Ta fée, quoi.
Ma fée, quoi? J'ai une fée, moi?
Bah ouais, ça arrive.
Et c'est comme ça, une fée.
Oh, hein? Dis donc, tu me connais pas encore?
J'avais jamais demandé à avoir une fée.
Merci beaucoup pour ce Cendrillon absolument exceptionnel. Alors maintenant, on va continuer avec les jeunes du lycée Jeanne d'Arc. Et vous allez nous proposer un débat. Vous pouvez un peu nous raconter de quelle pièce vous allez nous parler?
Bien sûr, Ahmed, je te laisse commencer à présenter la pièce.
Alors, Les femmes de Barbe Bleue racontent l'histoire de cinq femmes qui ont fait la rencontre d'un homme décrit comme charmant, grand, viril, fort. Cet homme, c'est Barbe Bleue. Chacune de ces femmes, Jordane, Nelly, Valentine, Anne et une vêtue de rouge, ont une relation amoureuse unique avec lui.
Le point commun de ces histoires, c'est qu'à chaque fois, Barbe Bleue doit s'absenter quelques jours. Avant de partir, il leur donne une clé. Cette clé permet d'ouvrir l'entresol. Problème, elles ont interdiction d'y aller. Pourquoi donner une clé si on ne peut pas l'utiliser?
Alors, cette pièce vous a-t-elle ému en tant que spectateur? D'ailleurs, selon vous, quel était le but?
Alors, pour commencer, avec la spécialité théâtre à Jeanne d'Arc, on a eu la chance de voir la mise en scène de Lisa Guèze par la compagnie 13 sur 31. Et oui, cette pièce m'a beaucoup émue parce que, pour commencer, ça parle d'une question féministe, ou en tout cas autour de la femme. Et c'est un sujet qui est violent, parfois dérangeant, ça peut mettre très mal à l'aise aussi, de voir ça sur scène. Et l'omniprésence d'un homme comme Barbe Bleue, violent, fort, et ben ça met une certaine pression dans la salle. En tout cas, dans le public, on ressent vraiment cette pression et cette peur de sa présence. Avez-vous pensé des choix scénographiques réalisés? Et le décor était-il suffisant pour vous?
J'ai vraiment aimé la scénographie, la façon dont l'espace du plateau a été pris, les jeux de lumière et ses couleurs, comme quand la douche de lumière se rétrécit de manière rectangulaire, montrant la porte de l'entresol qui se ferme sur l'actrice, sur la comédienne. Et j'ai trouvé que oui, le décor était suffisant, c'était simple et efficace. Seulement des chaises qui deviennent des chaises de thérapie à celles de la table à manger, puis ces chaises deviennent une voiture. Et puis surtout, il n'y en avait pas besoin parce que les comédiennes utilisaient leur corps d'une manière qui fait qu'on peut imaginer n'importe quel objet avec elles. Personnellement, j'ai encore les images de comment j'imaginais la maison de Barbe Bleue, sa cuisine, sa salle de bain et cet entresol. Quel est l'intérêt de réécrire un conte pour le théâtre contemporain?
L'intérêt de réécrire un conte pour le théâtre contemporain, c'est tout d'abord ce sujet-là des violences conjugales. C'est un sujet qui a traversé les époques et malheureusement qui est toujours d'actualité. Mais grâce au théâtre, on peut le mettre sous différentes formes et c'est plus accessible. Comment sont représentées les femmes de Barbe Bleue dans cette pièce ?
Les femmes de Barbe Bleue sont représentées comme très, même trop curieuses, attirées par le danger. Elles sont omnubilées par un seul homme au point d'oublier leur famille, leurs amis, leur travail, leur hobby. On peut donc penser qu'elles sont même manipulables. Elles sont vues comme les victimes d'un homme sadique. Mais elles sont compréhensives, bienveillantes et vaillantes par rapport à leur entraide contre leur traumatisme. Pouvez-vous nous parler des costumes et de leur potentielle signification ?
Les costumes, pour commencer, la première femme qui apparaît sur scène est vêtue d'une robe de fête, rouge, très vive. Et cette couleur est associée à la vie humaine, à peut-être une sorte de fête, à du sang, à quelque chose qui est vivant. Alors que les quatre autres femmes, elles, sont vêtues de bleu, en rapport, je pense, avec Barbe Bleue. Mais également, puisque le bleu est une couleur froide, qui personnellement me fait penser à des cadavres et à des gens décédés. Et on a vraiment le contraste entre cette femme en rouge qui est encore vivante, qui a encore la possibilité de s'enfuir et de vivre, et ces quatre autres femmes qui sont décédées par amour. Pourquoi ce choix de ne jamais voir le vrai Barbe Bleue ?
Je pense que c'est pour garder cette unité d'avoir seulement des femmes qui jouent ensemble. Et puis, dans la logique, lorsqu'on se remémore des souvenirs traumatisants, la personne concernée n'est pas forcément là. Et puis surtout, pas besoin d'une Barbe Bleue quand les comédiennes peuvent prendre une voix très grave, grandir leur corps et jouer ce Barbe Bleue. Et surtout, on le voit dans la pièce, mais ce Barbe Bleue est toujours décrit différemment par ces quatre femmes. Alors c'est comme une sorte de symbole qui montre que Barbe Bleue, ça peut être n'importe qui et pas un seul archétype.
Et je voulais rajouter aussi que même s'il n'est pas présent, on sent quand même son emprise psychologique terrible sur ces femmes. Et on n'a pas besoin d'avoir un comédien sur scène, on sent sa présence partout. Même, j'ai trouvé, sur les visages de ces femmes, sur leur corps, sur leur façon d'agir, on le sent qu'elles ont vécu des choses traumatisantes avec lui. Et donc je trouve que c'est une très bonne idée de ne pas avoir mis de Barbe Bleue pour cette raison.
Je trouve aussi. Bah, d'ailleurs, comment seraient présentées les violences psychologiques et physiques ?
En tant que spectateur, on assiste à une espèce de séance chez un psychologue. Elles sont quatre et elles s'entraident toutes les quatre à rejouer leur scène de vie quotidienne avec lui, ou alors leur scène de mort, surtout leur scène de mort, les scènes traumatisantes. Et par exemple, si on prend le cas de Valentine, Valentine a le syndrome de Stockholm et elle en vient à se mettre à quatre pattes, à ramasser des sous-vêtements avec la bouche. Et donc c'est une sorte de domination perverse et vraiment cette partie-là personnellement m'a mis très très mal à l'aise. Et c'est montré, les violences psychologiques, je trouve, sont plus montrées que les violences physiques. C'est-à-dire qu'il y a le physique qui est engagé, mais c'est surtout comment il arrive à les contrôler, à les dominer. Et ouais, non, c'est vraiment très perturbant. Ça joue sur la peur, sur la solitude, puisque ces femmes se retrouvent seules. Et sur... Elles n'ont pas le choix, en fait, d'être avec lui.
Vous écoutez HTR.
C'est sur le 99.1.
99.1.
Est-ce que la morale de cette pièce correspond à celle du conte de Charles Perrault qui dit que la curiosité féminine est un vilain défaut ?
Oui, mais c'est la curiosité tout court. Parce que je vois pas pourquoi il faut la qualifier de féminine par Perrault. Parce que oui, ces femmes sont très curieuses par soi le mystère de l'entresol ou juste le potentiel danger que pourrait représenter Barbe Bleue. Pourtant, c'est tout simplement humain. Quand on va dans les montagnes russes ou on va juste au cinéma pour regarder un film d'horreur. Alors oui, la curiosité, mais seulement la curiosité est un vilain défaut, car il y a des choses qu'on devrait plutôt éviter ou alors on pourrait finir poignardé, étranglé ou encore écartelé comme ces femmes de Barbe Bleue. Mais finalement, avec le cas de Valentine qui est morte alors qu'elle obéissait à tout ce que lui ordonnait Barbe Bleue et qu'elle n'est même pas entrée dans l'entresol, on peut aussi y répondre que ce n'est pas la morale que veut montrer la pièce.
Oui, et je voudrais juste rajouter que rien ne justifie la violence sous toutes ses formes d'ailleurs. Rien ne justifie la violence dans les familles, dans les groupes d'amis, que ce soit la curiosité, une parole mal prononcée. Et je trouve que je ne suis pas vraiment en accord avec ce que dit Charles Perrault.
Et toute dernière question. Pour vous, cette pièce est-elle un avertissement ou une dénonciation ?
Les deux. Cette pièce met en garde sur les rencontres que l'on peut faire au travers de notre vie. Et moi, je me suis surtout posé la question de jusqu'où on peut aller dans les relations humaines, jusqu'où on peut aller dans les relations, en l'occurrence de couple, et qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qu'on peut faire. Jusqu'où on peut aller en se respectant. Et les violences ne sont pas toujours fatales, mais elles peuvent être très destructrices. Si on prend l'exemple de cette femme en rouge qui arrive à s'en sortir, qui elle survit, et c'est la seule malheureusement, elle le dit, et cela se voit sur le corps de cette comédienne, de ce personnage. Elle a peur, son corps, on le voit que c'est de la peur constante. Et donc, ces violences-là, elles restent traumatisantes, même si elles ne nous sont pas fatales. Où est-ce qu'on peut aller dans l'amour, et tout en se respectant ?
Bah écoutez, vraiment merci. Je trouve que c'est vraiment une analyse